ce premier dimanche du carême, est consacré habituellement à la récit de la tentation. On appelle le dimanche de la tentation, et puis dimanche prochain, c'est le dimanche de la transfiguration. C'est intéressant de réfléchir sur ce qu'est une tentation. Premièrement, comment arrive la tentation? La tentation arrive par l'imagination. C'est-à-dire qu'on se figure que si on cède à tel ou tel acte que l'on sait répréhensible, eh bien, il y aura une promesse de bonheur, mais en fait, c'est une fausse promesse de bonheur. C'est un faux bien. Et c'est dire aussi qu'il faut prendre soin de notre imagination, avoir une certaine garde à notre imaginaire, parce que c'est comme ça que ça arrive. C'est intéressant de voir le récit, comment est le récit de ce péché originel, et qui vraiment, je trouve intéressant, parce que c'est, la manière dont c'est présenté, c'est voilà, Ève vit que l'arbre, et le fruit de l'arbre était bon et appétissant à manger. On dit, mais c'est peut-être quelque chose de bien. Mais derrière toute tentation, il y a un mensonge. Et là, on voit très bien le démon lui-même qui dit « Vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez pas, sinon vous mourrez », dit la femme, alors que le démon lui dit « Non, non, vous mangerez d'aucun arbre du jardin, non. On peut manger de tous les arbres. » Vous voyez, il y a un mensonge. Il y a une fausse promesse de bonheur. Il y a quelque chose qui... Et là, on voit bien, même avec, avec Jésus, comment le démon tourne les choses et dit « Voilà... cite la parole de Dieu. Il donnera pour toi des ordres à ses anges et il te portera sur le main. » C'est le psaume. Donc, d'où il faut être très attentif à cette question de tentation. Même au plan spirituel, on peut être tenté avec la parole de Dieu. Il y a des mauvaises lectures de la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui parfois nous emmène dans le décor. Il y a des spiritualités, des simili-spiritualités qui sont répréhensibles. C'est pas parce qu'on cite Jésus, qu'on cite l'Évangile, même qu'on cite le magistère de l'Église, que forcément on est dans tout. Comment est-ce que c'est vu? Comment est-ce que c'est? Voilà. Donc je trouve ça intéressant, cette question de tentation et d'être attentif, d'avoir une garde à notre imagination et puis d'être attentif à ne pas se laisser emporter par des fausses promesses de bonheur. Et puis les trois tentations que l'on voit et qui sont au fond rien de nouveau sous le soleil, les tentations de la chair, les tentations des richesses, les tentations de l'esprit. C'est les trois formes de toute puissance. Les trois formes où on veut donner à notre désir l'infini de l'intelligence. Voilà, c'est ça, on veut donner à notre désir l'infini de l'intelligence. C'est-à-dire derrière ces trois formes de toute puissance, ces trois idoles. À quoi est-ce qu'on reconnaît l'idole? L'idole n'offre pas de repos. Oui, dans l'idole, il y a l'idée toujours d'un toujours plus. C'est comme le hamster dans la roue, c'est-à-dire je peux toujours avoir plus de bien, toujours à la recherche de plaisir, toujours à la recherche de domination. L'idole n'offre pas de repos. Et donc c'est intéressant de voir que ces trois formes d'idolâtrie sont combattues par ce qu'on appelle les trois conseils évangéliques que nous comme religion on professe comme vœux, mais qui sont des conseils pour tous ceux qui veulent vivre l'évangile, pour vous aussi qui voulez vivre l'évangile, qui êtes ici. Eh bien, c'est la pauvreté pour répondre à l'idolâtrie des richesses, la chasteté pour répondre à l'idolâtrie des plaisirs, et l'obéissance pour répondre à l'idolâtrie de la domination. C'est ces trois formes de vœux que nous, on pratique comme eux, mais qui sont des conseils évangéliques. Donc, chacun selon son état de vie, essaye de le pratiquer. Comment est-ce que je peux pratiquer certaines obéissances, par exemple, à la parole de Dieu? Obéissance à la réalité, obéissance à la parole de l'Église, par exemple. Comment, par rapport à cette société de consommation, je prends du recul et je ne suis pas dans, je ne laisse pas aspect par des côtés addictifs de la consommation, etc. Bon, bref, il y a des tas d'applications. Mais je trouve intéressant ces trois formes de toute puissance. Celle qui est peut-être la plus difficile, c'est la toute puissance de l'esprit. C'est qu'on appelle, ces trois formes d'orgueil. L'orgueil de la chair, l'orgueil des richesses, l'orgueil de l'esprit. Mais l'orgueil des richesses, on voit bien qu'on veut. Il y en a qui sont très mobilisés pour augmenter leur compte en banque, ou alors chercher la réduction, mais de façon complètement désordonnée. Tout est motif à chercher des réductions, à chercher des promotions, à chercher des soldes, etc. Du coup, voilà. Mais c'est aussi une forme d'idolâtrie. Qui fait qu'on détourne notre capacité d'amour vers une autre chose, c'est ça. Mais là, certainement, l'orgueil de l'esprit, le plus difficile, ce qu'on appelle communément l'orgueil tout court, Pourquoi? Parce que il y a un point aveugle. C'est-à-dire que on ne s'en rend pas compte. Autant si vous voterez dans la luxure, etc., bon, on s'en rend compte. Si vous êtes dans le désir d'accumulation du bien, etc., vous parlez beaucoup d'argent, vous parlez, finalement, on s'en rend compte. Mais l'orgueil de l'esprit, on ne s'en rend pas compte. Qui est au fond la toute-puissance, qui est le désir d'avoir raison, qui est le désir d'avoir le dernier mot, qui est le désir de gouverner sur les autres. Et on voit dans les scandales politiques, par exemple, c'est, vous reverrez, c'est d'une manière ou d'une autre, c'est dans une de ces trois cases que tombent tous les scandales politiques. Récemment, un prétendant à la mairie de Paris, voilà, bon, c'est clairement dans l'orgueil de la chair, par exemple, qu'il est tombé. Mais d'autres, ce seront le détournement des richesses. Certains sont passés en jugement aujourd'hui pour des questions d'argent, etc. Et certains sont passés à côté de leur destinée, justement à cause pour être tombés dans des formes de toute puissance, quoi. Et du coup, c'est intéressant de voir que l'humilité, et là, au fond, ces trois les conseils évangéliques, ces trois formes aussi d'humilité, qui viennent combattre en nous le mensonge, qui viennent combattre en nous ce qui est des promesses mensongères de bonheur. C'est ça l'humilité. Donc ça nous permet de nous remettre vraiment dans le Seigneur. Et au fond, le carême, c'est vraiment ça. C'est débusquer en nous où est-ce qu'on est au service d'une idole. On a tous des idoles, ne serait-ce que peut-être l'image de nous-mêmes, le désir d'être très soucieux de l'image qu'on renvoie de soi-même et très préoccupé du regard des autres. Ça, c'est une idole. Par exemple, ça, c'est tout à fait une idole. C'est une idolâtrie, quoi. Et Jésus nous emmène à cette liberté, hein, intérieure, c'est-à-dire justement de ne pas nous laisser embringuer par des idoles qui nous rendent au fond esclaves. Hein. Et on sait bien le carême c'est 40, c'est-à-dire 40 jours, et quand vous avez 40 jours, dès que vous avez 40 en général dans la Bible, c'est comme ça qu'on comptait les grossesses, c'est-à-dire que 40 semaines, une grossesse c'est 40 semaines. Donc, c'est-à-dire que 40, ça veut dire l'accès à la fécondité. Hein, et donc, du coup, 40 ans dans le désert, etc. Donc, 40 jours, au fond, c'est pour avoir une fécondité, une vraie fécondité, mais qui nous laisse libres intérieurement. Au fond, passer la Pâque, c'est passer justement de l'esclavage à la liberté. Ben, ça, il nous faut au moins 40 jours pour dire, ben, débusquer en nous, qu'est-ce qui a travaillé, qu'est-ce qui a à souligner pour que nous puissions sortir. C'est le travail d'une vie. Lutter contre la toute-puissance, c'est le travail d'une vie. Certains disent l'amour-propre meurt un quart d'heure après nous. Comme pour dire que, voilà, c'est quelque chose qui est tellement lié à la nature humaine, hein, et aux conséquences du péché originel en nous. Hein, c'est... On ne peut que voilà, c'est ce désir d'emprise. C'est intéressant comme est présenté le péché originel, c'est le fait de manger. Or, qu'est-ce que c'est que manger, hein, on a tous mangé notre petit déjeuner, etc. Et bien, du coup, maintenant, notre petit déjeuner devient nous. On assimile les différents aliments qu'on a pris et se transforme dans les différents tissus, etc. Bon, voilà, c'est tout le travail de la nature. Mais au plan spirituel, au fond, manger, dévorer, hein, c'est vouloir que l'autre devienne moi. C'est refuser l'altérité. Refuser que l'autre soit autre que moi. Et d'où l'importance d'aimer, par exemple, sans dévorer. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont en couple, etc., mais d'avoir une relation amoureuse qui ne soit pas une relation dévorante, mais d'accepter que l'autre aussi soit autre que moi et suive son chemin. C'est aussi compliqué, parce que c'est dit d'une autre manière, mais c'est aussi renoncer à la toute-puissance que d'accueillir l'altérité. Alors on va demander au Seigneur cette grâce, quoi, de nous laisser pendant ce temps de carême, peut-être de pointer dans ce temps de silence que nous allons prendre, de réflexion, de demander au Seigneur son éclairage, et pourquoi pas demander autour de nous, où est-ce qu'on doit progresser, où est-ce qu'il y a une de ces formes de toute puissance qui est à l'œuvre. Comme je vous l'ai dit, il y a un point aveugle en nous. Il y a Et donc, il y a un angle mort. On ne voit pas. Parfois, le fait de demander à d'autres de dire, ben, ça peut être, je ne sais pas si vous voyez, ou en famille, ou des personnes qui ont du discernement, de dire, où est-ce que j'ai encore un désir de toute puissance et que je pourrais lutter et, voilà, ça peut être, en tout cas, c'est un acte d'humilité que de le demander. Et de dire, cette toute puissance, demander à quelqu'un qui a du discernement, évidemment. Voilà, parce qu'on ne s'en rend pas compte. Donc, le fait de dire, de se laisser éclairer par ceux qui vivent avec nous au quotidien.